Donc, je remercie beaucoup Jean-Michel Beignet qui est déjà venu chez nous d'intervenir de nouveau dans ce cadre. Il est vrai que ces conférences sont là aussi pour parler d'autre chose que ce que font les étudiants d'habitude. Je trouve important. Et puis, on en profite, en effet, pour se faire plaisir. Donc, je trouve que l'approche de Michel Beignet est très intéressante. Je vous invite à lire ses ouvrages. Le dernier ouvrage s'intitule « L'homme simplifié ». Et le sous-titre est révélateur, c'est le syndrome de la touche étoile. Je pense que vous l'avez tous connu, ce syndrome. Si vous êtes, vous, quand on vous dit d'appuyer sur la touche étoile, mais pensez aussi à ceux qui sont de l'autre côté et qui disent toute la journée d'appuyer sur la touche étoile. Ça, c'est terrible, quand on arrive à discuter avec eux, bien sûr. Donc, vous allez nous parler de la... Quel bonheur nous promet la révolution technologique ? C'est bizarre parce que c'est un titre, qui aurait pu être un titre aussi du début du XXe siècle. Hein, et on se demande comment ça se fait qu'on est encore en train de se poser cette question aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'approche de cette question est tout à fait différente et a évolué aussi grâce, entre guillemets, aux nouvelles technologies. Et donc Jean-Michel Beignet, vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4, directeur du master professionnel, conseil éditorial et gestion des connaissances et directeur du CREA, CNRS, École Polytechnique. Donc on vous écoute pendant une heure avec grand plaisir, vous n'avez pas de PowerPoint. Je vous ai dit tout à l'heure, les philosophes n'ont pas de PowerPoint et ça nous repose. Merci beaucoup, à plus tard.
Merci beaucoup, merci Anne Bonnefoy de votre confiance et de m'avoir renouvelé cette invitation. C'est vrai ce que vous dites là tout à l'heure, là. Je n'y avais pas songé, ce titre, est-ce qu'il aurait pu être utilisé au début du XXe siècle où on était aussi porté par des espoirs mis dans les techniques ? Je me demande si au début du XXe siècle, on n'aurait pas plutôt posé la question quel progrès nous promet la révolution technologique ? Hein, mais quand on parle de bonheur, on ne parle plus de progrès, hein, on a le sentiment d'être arrivé. Bon, ben écoutez, c'est de ça que je vais parler un petit peu, moi. Je vais parler de ceux pour qui le bonheur est un programme, et un programme qui sera bientôt réalisé. Parce que c'est ce qu'on nous annonce, c'est ce que certains nous annoncent, et ces gens, d'ailleurs, suscitent souvent de l'animosité contre eux, et c'est très étrange, parce que ceux qui nous annoncent le bonheur sont accusés parfois de nous pourrir la vie. Donc je vais parler des ingénieurs du futur, je vais parler des constructeurs de robots, des chercheurs en biotechnologie ou en neurosciences, enfin bref, tous ceux qui paraissent être à la clé de nos innovations de toutes sortes. Et je vais parler aussi de ceux qu'on appelle parfois les technoprophètes. Vous savez, ces technoprophètes qui se demandent, ou plutôt qui annoncent, que nous avons vraiment tous les éléments aujourd'hui pour nous rendre la vie belle et l'avenir désirable. Hein, donc c'est le bonheur clé en main que nous annoncent ces technoprophètes. Hein, je donnerai quelques noms au fil de mon propos. Alors, il faut dire, puisque vous évoquiez le XXe siècle, que l'idée de s'en remettre aux sciences, aux technosciences, comme on dit aujourd'hui, pour réaliser le bonheur, c'est pas une idée neuve, évidemment. Hein, on peut dire que l'esprit de la modernité, c'est-à-dire de cette période qui est née au début du XVIIe siècle et dont nous sommes le prolongement, l'esprit de la modernité associait traditionnellement le progrès technique, le progrès scientifique et le progrès moral. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des tirades de Condorcet en 1793, enfin, au lendemain de la Révolution française, hein, où il annonçait que les progrès de l'esprit humain pouvaient déboucher désormais sur l'accomplissement de tout ce dont rêve l'espèce humaine. Et Condorcet disait, celui qui a fait la Révolution française, c'est Descartes. Hein, et c'est pas la prise de la Bastille pour lui, mais c'est Descartes, parce que Descartes mettait en chantier la science moderne, la technique, et nous annonçait que grâce à leur progrès, nous allions devenir meilleurs, déjà, moralement meilleurs, et nous allions évidemment nous octroyer tout ce dont nous rêvions. Bon, le XXe siècle, a déchanté. La Première Guerre mondiale, vous savez, a, à représenter dans l'histoire récente, relativement récente, un moment de désillusion. Hein, c'est le moment où on a découvert que les progrès scientifiques et techniques pouvaient ne pas équivaloir au progrès moral. Hein, le jour où on a découvert que la science, ça pouvait servir à faire la guerre à grande échelle, que la technique, ça pouvait produire les catastrophes qu'on a connues en 14-18, puis en 39-45, bah, du coup, la science est devenue, et la science et les techniques sont devenues facteurs d'insécurité, facteurs de peur, hein, et on a cessé de vouloir mettre le bonheur, hein, en elle, hein, et au contraire, on est devenu très très circonspect. Bon, il faut croire qu'on a peut-être été oublieux, ou on est peut-être oublieux aujourd'hui, puisque les scientifiques, les ingénieurs reviennent à la charge, hein, comme si on pouvait biffer toutes les craintes générées au cours du XXe siècle. Et puis, on nous dit qu'après les aberrations du XXe siècle, eh bien, nous allons connaître un monde meilleur et nous allons faire advenir ce qu'ils appellent souvent, ces technoprophètes, une nouvelle renaissance. Ils parlent souvent de la nouvelle renaissance dont nous serions là les contemporains. On ne s'en aperçoit peut-être pas, mais tous les éléments de cette nouvelle renaissance sont réunis. Alors, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Depuis, en situant mon propos, disons, au début des années 1990, hein, c'est hier, c'est le moment où on voit s'exprimer un courant d'opinion qu'on nomme le transhumanisme. Alors, maintenant, l'expression transhumanisme est devenue banale. Je ne sais pas si vous avez vu le journal Le Monde consacrait 3 pages au transhumanisme il y a quelques jours. Hein, bon, et puis c'est une expression, c'est une réalité qui est de plus en plus admise partout. Les politiques en parlent, les députés en parlent. Enfin bref, c'est bon. Ces mouvements transhumanistes, ils sont nombreux. Je ne vais pas entrer dans le détail. Sans ça, il me faudrait plus d'une heure. Mais disons que, en gros, ils ont tous en commun, ces courants d'opinion, d'affirmer que la révolution technologique est sur le point de réaliser toutes nos aspirations. Alors, ce qu'ils entendent par révolution technologique, c'est ce qu'ils appellent aussi la convergence technologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la convergence technologique ? Eh bien, c'est la réunion, la synergie de 4 disciplines de pointe qui se développent chacune de son côté, mais qui contribuent finalement à générer une solidarité qui va dans le sens, hein, de l'aménagement des situations, de la situation humaine et donc de la réalisation du meilleur. Alors, quelles sont ces disciplines ? On les a regroupées derrière un acronyme, donc une expression qui est connue maintenant aussi, de plus en plus, qu'on appelle NBIC. NBIC, c'est la convergence des nanotechnologies, N, des alors nanotechnologie, c'est le travail au 1 milliardième de mètre, hein, donc vraiment dans le quasiment l'infiniment petit. Les biotechnologies, hein, NB, hein, biotechnologie. I, c'est l'informatique d'une manière générale, hein, ou l'information, les technologies d'information. Et C, c'est les sciences cognitives, les neurosciences, l'intelligence artificielle. Donc, ces 4 disciplines, hein, sont censées mettre en place les conditions pour que nous soyons enfin satisfaits de ce que nous sommes et satisfaits dans toutes nos attentes. Ces NBIC, elles sont connues aux États-Unis au moins depuis 2003. En 2003, on a remis un rapport au gouvernement américain intitulé, en anglais, enfin, je le dis en français, Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines. C'est un rapport, hein, qui a été remis au gouvernement américain de l'époque. Il a deux signataires, M. Rocco et M. Bainbridge, Bon, ces gens-là ont réuni un ensemble d'informations qui composent un ouvrage de 400 pages, confié donc au gouvernement américain, pour répondre à cette question. Voilà comment les sciences et les techniques aujourd'hui mettent en chantier les éléments de la construction de ce bonheur qu'on attend. Et ce rapport, donc, NBIC, il est précédé d'une introduction qui est une espèce de manifeste dont se servent tous les transhumanistes. Alors, dans la première partie de mon exposé, je vais parler un petit peu de ce manifeste, puisque ça va vous donner une figuration un peu concrète de ce bonheur dont on nous dit qu'il est à notre portée. Donc vous allez savoir, grâce à ce rapport, exactement comment on se représente le bonheur chez les technoprophètes. Alors ce rapport, il n'est pas du tout insignifiant. Il fait l'objet de l'examen de toutes les nations développées. Toutes les politiques de recherche contemporaines s'inspirent de ce rapport NBIC. Vous savez que la communauté européenne a pondu un truc qu'on appelle la stratégie nationale recherche et innovation, SNRI, qui condense l'ensemble des politiques de recherche des 28 États membres. Donc les 28 États membres ont élaboré une politique de recherche qui se trouve rassemblée dans un manifeste, là aussi, qui s'appelle 2020 Innovation. 2020 Innovation, c'est-à-dire c'est pour les 10 ans à venir, les 28 États membres se sont déterminés sur un certain nombre d'objectifs en matière de sciences et de techniques. Et ces objectifs sont tous inspirés de ce rapport américain sur la convergence technologique. Alors dans ce manifeste que je vais vous citer de temps en temps et que je commenterai, on commence par dire ceci. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle renaissance dans les domaines de la science et de la technologie, basée sur une compréhension exhaustive de la structure et du comportement de la matière, tant à l'échelle nanométrique qu'au niveau du système le plus complexe découvert, le cerveau humain. Donc, je commente simplement. On voit qu'il s'agit d'une renaissance, mais d'une renaissance à la manière de la renaissance européenne du XVe siècle. C'est une renaissance qui est fondée sur un savoir totalisant. La renaissance européenne, pic de la Mirandole, pensait pouvoir totaliser le savoir et l'offrir en quelque sorte aux générations à venir, en disant voilà, nous avons, grâce à cette capitalisation du savoir, tous les éléments qui vont permettre à l'humanité de partir d'un bon pas et de s'arracher aux inerties du Moyen-Âge. Eh bien là, on dit la même chose. On a un savoir totalisant. Ce savoir totalisant, c'est un savoir qui part du plus petit, le nanométrique, qui va jusqu'à l'astrophysique et qui passe par cette réalité qu'est le cerveau. Donc, un savoir exhaustif. Nous sommes en passe de disposer de ce savoir qui va de l'infiniment grand à l'infiniment petit et réciproquement, et qui nous est permis grâce à la compréhension du fonctionnement de ce système complexe qu'on appelle le cerveau humain. Donc le ton est donné, et c'est vrai, c'est vrai qu'on fait des progrès considérables dans la compréhension du cerveau, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que la possibilité d'investiguer la matière au niveau du nanomètre nous a donné des perspectives nouvelles. Et c'est vrai aussi que l'astrophysique, grâce à certaines technologies comme celle de Hubble ou grâce à des stations géostationnaires, etc., nous donne des perspectives sur l'astrophysique qui sont considérables. Le courant transhumaniste qui s'empare de tout cela connaît une audience croissante dans tous les pays technologiquement développés. Alors, il y a des raisons pour cela. Je pense d'abord que si les transhumanistes sont de plus en plus écoutés, c'est sans doute d'abord parce qu'ils rencontrent l'appétit d'innovation et les attentes des milieux économiques, des milieux industriels et des milieux politiques. Donc il y a un vent porteur. À une époque où on nous dit sans arrêt que c'est grâce aux innovations que nous allons prospérer, il faut innover. Bon, les transhumanistes sont évidemment un support idéologique tout à fait considérable. Ils sont là pour nous dire qu'effectivement, l'avenir est identifié par toutes nos sociétés dans la compétitivité internationale, la réactivité des marchés, la prise du pouvoir sur l'information, l'accroissement des performances humaines, l'amélioration de la longévité. Donc je cite tous ces éléments qui sont toujours mis en avant pour dire voilà, c'est là notre avenir, c'est là. Nous allons vivre en un premier temps 130 ans et puis un jour 1000 ans. C'est déjà dit et répété. Nous allons développer nos performances humaines, nous allons voir la nuit, nous allons courir très très vite, etc., etc. Tout cela est dit, répété continuellement. Donc il suffit de croire que tout cela contribue au bien-être, à votre bien-être, à mon bien-être, pour être assuré que les innovations technologiques vont réaliser votre bonheur. Si votre bonheur passe par tous ces éléments que j'ai énumérés, conquête, la compétitivité, réactivité, prise de pouvoir sur l'information, performance humaine et longévité, à ce moment-là, c'est gagné et les technoprophètes n'abusent pas, n'exagèrent pas lorsqu'ils disent que ils vont vous rendre le monde agréable. Et c'est d'ailleurs sur ce mode-là que le rapport américain NBIC se situe. Là, il est très très clair pour ce rapport que le monde meilleur à venir, il est mis sous le signe, je cite, de la performance humaine et de la productivité. Je vais citer l'inventaire des promesses qui sont formulées dans ce rapport, parce que ça vous donnera une idée donc juste de cette vision idéale qu'on nous propose. Alors on nous dit dans ce rapport que les exemples des gains en productivité se mesureront à l'amélioration du rendement et de l'apprentissage du travail, à l'amélioration des capacités sensorielles et cognitives des gens, au nouveau processus de fabrication et à la diffusion de produits améliorés. On nous dit que les changements révolutionnaires dans la santé, l'amélioration à la fois individuelle et collective du rendement, les techniques de communication hautement efficaces, notamment l'interaction de cerveau à cerveau. On nous dit que le perfectionnement des interfaces homme-machine, y compris l'ingénierie neuromorphique, de modification du cerveau pour la défense, pour une utilisation personnelle et industrielle, on nous dit que le renforcement des capacités humaines pour la défense nationale, l'accès à un développement durable grâce aux outils NBIC et le recul du déclin physique et cognitif qui est commun à l'esprit vieillissant, on nous balance tout cela, excusez-moi l'expression, un peu en vrac, parce que je vous ai cité là les premières lignes du rapport. On nous dit, voilà, tout cela est mis sous le signe de l'amélioration. Alors vous savez, en anglais ou en américain, le terme qu'on emploie, c'est « enhancement ». Nous, on l'a traduit en France par « augmentation ». Donc, c'est pas rien. C'est pas « amélioration », c'est pas « rendre meilleur », c'est « augmenter », quantitativement. Je laisse en suspens cette petite remarque, mais peut-être que tout à l'heure, si on le peut, on en discutera. Donc, tout cela contribue est censé contribuer à notre bien-être. Je voudrais juste relever, pour le commenter, un des facteurs que j'ai cité, facteur de bonheur, c'est l'interaction de cerveau à cerveau. Les technologues, certains technologues, surtout qui travaillent en cybernétique, se mettent dans l'idée que notre bonheur pourrait passer par la télépathie. Ça paraît étrange. Mais en gros, il y a des gens, je ne vais pas citer beaucoup de noms, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Kevin Warwick, qui dirige vraiment l'industrie cybernétique au Royaume-Uni, et qui est persuadé que si nous sommes malheureux, c'est parce que nous parlons. C'est parce que nous parlons. Le langage est la source de tous nos maux. Le langage, c'est l'origine des guerres, c'est l'origine de la violence, c'est, voilà, regardez les animaux, ils sont tranquilles, hein, bon, ils ne parlent pas, enfin, en tout cas, on pense qu'ils ne parlent pas. Et puis les robots, ben, ils sont tranquilles aussi, ils ne parlent que si on leur demande. Hein. Et donc, vous avez des gens, c'est pour donner un petit peu le ton, hein, des gens parmi les technologues qui sont convaincus que le jour où nous serons capables de communiquer de cerveau à cerveau, hein, donc mes activations neuronales se traduiront par des ondes électromagnétiques que vous recevrez, vous, 5 sur 5, et qui traduiront ce que je pense. Hein, donc je pense, une activation neuronale se met en place, cette activation circule jusqu'à votre cerveau, et vous comprenez, sans que j'ai besoin de dire quoi que ce soit, ce que je pense, et vous me répondez, etc. Et ce monde sera déjà un monde de bonheur, puisque nous n'aurons plus ce handicap qu'est le langage. Bon, si j'insiste un petit peu là-dessus, vous voyez bien, c'est que j'émets quand même un certain nombre de doutes et j'aime bien parler. Donc, une humanité qui projette son bonheur dans la suppression du langage, c'est pour moi une humanité qui me fait froid dans le dos. La vie, donc, devrait être belle quand on aura obtenu toutes ces choses que les technosciences nous annoncent. Et évidemment, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui doutent de tout cela. Mais quand on en doute, eh bien, les technoprophètes nous disent à peu près ceci. Ils nous disent, c'est bien parce que vous êtes oublieux de tous les méfaits que l'humanité a commis au XXe siècle. Hein, si vous étiez raisonnable, vous applaudiriez des deux mains devant toutes ces promesses. J'ai souvent l'habitude de citer les propos d'un transhumaniste français, qui a un nom chinois mais qui est français, et qui résume cela très très bien. Il dit, bon, quand il dit à peu près exactement ceci, il dit, après la Shoah, on ne peut pas vouloir que l'avenir est le visage de l'homme. Après la Shoah, on ne peut pas vouloir que l'avenir est le visage de l'homme. Et ça le conduit à dire que tout ce qu'on mettra en place qui permettra de se défaire de l'homme sera bon. Donc c'est un transhumaniste là presque radical qui dit ce transhumanisme, il doit contribuer à faire advenir autre chose que l'homme, hein, aller au-delà de l'homme. Et réaliser le bonheur des humains, eh bien, pourrait passer au fond par la suppression tout simplement de ce qu'est l'humain. Et quand on résume un peu la chose en disant, regardez, on nous promet que nous allons de plus en plus fusionner avec nos machines. Et ça, c'est sûr qu'on va fusionner de plus en plus avec les machines. Pour l'instant, on les a encore dans la poche, les machines, l'iPhone. Hein. Bon, on les aura sur les lunettes un jour, et puis on les aura dans le crâne bientôt. Hein. Bon, ça sera bien ce qu'on appelle une fusion avec les machines. Hein. Et les technologies de prothèses, etc., vont se développer à une vitesse considérable. Donc la fusion avec les machines, c'est quelque chose qui nous est promis. Donc vous voyez, l'exigence des transhumanistes, elle est claire. Hein. Rappelons-nous de tous les méfaits que nous avons commis au cours du XXe siècle, et disons-nous que le salut, c'est-à-dire le bonheur, consistera à nous défaire de ce que nous avons été pour enclencher autre chose. Alors, je voudrais commenter quelques-unes des promesses les plus insistantes qui figurent dans le programme NBIC destiné à nous assurer le bonheur. Je vais aller vite, et peut-être que j'en sauterai certaines, mais c'est pour ne pas être abstrait, hein, et que vous voyez bien de quoi il retourne. Alors, je cite, des interfaces rapides et à haut débit reliant directement le cerveau humain et les machines, vont transformer le travail dans les usines, contrôler les voitures, assurer la supériorité militaire et aider à la création de nouveaux sports, de formes d'art et de modes d'interaction entre les gens. Donc, je résume, le bonheur sera dans ce qu'on appelle quelquefois la cyborgisation, hein, la transformation des humains en cyborgs. Hein. Un cyborg, c'est un mixte, hein, d'organismes, orgues, et de cybernétique, cyborg. Bon, donc, nous relier de plus en plus à des machines, voilà ce que l'on nous promet comme une garantie de bien-être. Je continue. Je cite, « Des capteurs et ordinateurs portables permettront d'améliorer la prise d'information de chaque personne sur son état de santé, sur l'environnement et sur les polluants chimiques. » Alors ça, c'est très très actuel, hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle la santé connectée, hein, la médecine personnalisée, la médecine prédictive. On a même une expression anglaise qui est le « quantify self hein, ». Quantify self. Bon, tout ça, on nous dit que nous le voulons, ça. Nous le voulons, nous le désirons, donc on nous le fait. Hein, on nous le fait, donc c'est l'avènement des bracelets électroniques hein, qui vont mesurer notre pression artérielle, qui vont mesurer notre degré d'exposition au soleil l'été, des bracelets qui vont nous permettre là aussi, alors ça sera même un peu mieux, là c'est des lentilles que Google est en train de fabriquer qui permettront aux diabétiques de mesurer leur taux d'insuline, enfin, etc. Bon, on annonce même la commercialisation de miroirs qui, chaque matin, vous permettront de vérifier le fonctionnement de vos organes. Quand vous regarderez, vous ne verrez pas comme vous êtes là, mais vous verrez votre cerveau, vous verrez votre squelette, vous verrez vos poumons, et ça va, c'est bon aujourd'hui. Puis vous aurez des mesures qui indiqueront l'évolution hein, de votre comportement. Bon, ça va exister, ça existe de plus en plus. J'ai été auditionné il n'y a pas longtemps par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui est très très inquiet, parce qu'il voit ça venir, et il voit bientôt que la médecine, ça ne sera plus que du traitement du signal. Hein, parce que les data, comme on les appelle, toutes les données qu'on obtiendra grâce à des biocapteurs, hein, à des émetteurs-récepteurs d'informations, il faudra des spécialistes hein, pour décoder ces... Alors pour l'instant, vous avez déjà des spécialistes, quand vous allez les voir, ils ne vous regardent même plus, ils regardent votre IRM, ils sont penchés là-dessus. Ah tiens, vous êtes là, mais bon... Donc on voit déjà qu'il y a une espèce de déshumanisation de cette médecine-là, mais vous comprenez bien que quand on aura... transformer la médecine en une science de la mesure, qu'on aura écarté le langage aussi, entre le patient et le médecin, bon, on aura peut-être fait un pas supplémentaire dans quelque chose comme la déshumanisation. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on deviendra de plus en plus les uns et les autres hypochondriaques, hein, parce qu'on sera sans arrêt en train de mesurer le fonctionnement de nos organes, ou la qualité de ce que nous mangeons, parce que là aussi, ça passera par là. Votre iPhone vous permettra de décoder... avant d'avaler la composition de vos aliments, etc., etc. Donc tout ça, c'est dans les tuyaux, hein, c'est-à-dire que ça va de plus en plus envahir le marché. Les assureurs sont très très intéressés par ça, vous le devinez. Hein, la sécurité sociale aussi, qui rendra obligatoire ce genre de choses. Hein, il n'y a pas de raison. Si vous ne mettez pas vos bracelets électroniques, vous prenez des risques et il faudra payer ces risques. Hein, bon, etc. Ça fait partie du bonheur, ça. Je continue. Les robots et les logiciels seront bien plus utiles pour les êtres humains parce qu'ils fonctionneront sur des principes compatibles avec les objectifs, la conscience et la personnalité des humains. Alors là, c'est tout le continent robotique. Hein, ça se développe aussi très très fort. Je ne vais pas commenter longuement parce que ça me passionne, mais je ne vais pas être trop bavard. Si vous avez vu la série suédoise Royal Humans, hein, vous avez sans doute vu ça, cette série était assez bien faite. Hein, elle a donné vraiment un avant-goût de la coexistence des humains et des robots androïdes hein, dans un avenir qui peut être très proche, hein, parce que les robots androïdes font l'objet vraiment de recherches très très soutenues en Corée et au Japon. Et là, on pose bien la question de savoir comment est-ce qu'on va vivre dans un environnement où il y aura de ces robots qui nous rendront des services, mais avec qui nous interagirons. Idéalement, le bonheur, c'est d'être à sa place, d'être à sa juste place. Hein, bon, et avec ces robots, il faudra partager des places, hein, bien entendu. Mais en tout cas, on a la représentation à travers cette cette série suédoise d'une stabilisation du monde, de la société, où il n'y a plus d'événements pour bousculer les choses. On est dans une espèce de routine qui fonctionne grâce à la sécurité que nous octroieraient ces robots. Je continue. Les personnes de différents milieux et éducation acquerront de nouvelles connaissances et compétences précieuses de manière plus fiable et rapide, que ce soit à l'école, au travail ou à la maison. Bon, là, ce qu'on nous indique, c'est que bientôt triomphera ce qu'on appelle l'homme augmenté, c'est-à-dire cet être qui intégrera dans son anatomie toutes les dispositifs qui lui permettront d'accéder aux connaissances et de développer des compétences nouvelles. Bon, je ne vais pas plus loin. Ce qu'on ne dit pas dans ce rapport américain, c'est que vraisemblablement tout le monde ne bénéficiera pas de ça. Hein, et que vraisemblablement on est en train de se préparer une société qui fonctionnera à deux vitesses. Hein, il y aura les augmentés et puis les laissés pour compte. Hein. Quand on en parle aux transhumanistes américains, ça m'arrive assez souvent de dialoguer ou de discuter avec eux, ils disent bah oui, c'est comme ça, mais les non-augmentés disparaîtront. Disparaîtront. Hein. D'abord, ils ne se reproduiront plus. Il y a pratiquement une logique admise dans les milieux de la high-tech. Hein, dire, seule l'élite bénéficiera de tout cela. Hein. Ceux qui n'auront pas été augmentés seront handicapés. Hein, et ça sera demain, ça, tout simplement. Hein, si dans une société un petit peu compétitive, on favorise l'augmentation de certains cadres qui bénéficieront de la bodafiline, de la ritaline, etc., pour ne pas dormir la nuit, pour mémoriser plus vite que les autres, etc., etc. Il est évident que si vous travaillez dans la même société, vous n'avez pas d'autre choix que de demander vous-même à être augmenté, ou alors vous disparaissez. Donc on est dans cette logique très, très cynique, mais communément admise dans les milieux de la haute technologie. Les individus et les équipes, je continue, seront en mesure de communiquer et de coopérer de manière bénéfique malgré les barrières traditionnelles de la culture, la langue, la distance et la spécialisation professionnelle, ce qui augmentera considérablement l'efficacité des groupes, des organisations et des partenariats multinationaux. Alors ce qu'on désigne là, c'est tout ce qu'on appelle l'intelligence collective. Cette intelligence collective qui est censée instaurer quelque chose comme un cerveau planétaire, nos modes d'interaction grâce à nos ordinateurs permettent que nous interagissions à l'échelle de la planète via des réseaux, via des communautés, etc. Et nous sommes au fond les uns et les autres comme des neurones, qui accueillons de l'information, la faisons passer ou la barrons, l'interdisons, et nous réalisons des circuits, l'équivalent de circuits synaptiques. Et donc le cerveau planétaire est bel et bien une réalité, et chacun d'entre nous est un élément. Pas très important, puisque un neurone peut toujours disparaître, ça ne se voit pas, donc on n'est pas grand-chose dans ce dispositif-là. Mais en tout cas, on nous annonce que cette intelligence collective qui sera générée par le cerveau planétaire, elle est pour demain, nous l'expérimentons déjà, nous mettons déjà en place sur Internet des Wikipédia ou une culture wiki qui permet de donner une figuration déjà au mode d'interaction dont nous sommes capables grâce à l'électronique et au web. Je continue. Le corps humain sera plus durable, plus sain, plus énergique, plus facile à réparer et plus résistant à de nombreux types de stress, de menaces biologiques et au processus de vieillissement. Alors, ça, c'est toujours les auteurs du rapport américain qui le disent. Bon, vous avez remarqué en passant que ils parlent eux aussi, parce que nous le faisons aussi de plus en plus, de réparer le corps. Il n'y a pas très longtemps, on soignait. Maintenant, on répare. C'est intéressant de voir ce déplacement lexical qui est complètement... Je déjeunais hier avec un collègue de l'hôpital Sainte-Anne, hein, à qui je faisais remarquer ça, il me disait, bon, ça te choque, toi, qu'on me dise qu'on répare l'humain? Ben, il disait, c'est pas que ça me choque, j'ai l'impression que réparer, c'était l'apanage des mécaniciens jusqu'à présent. Et je pensais qu'on soignait, je pensais que on prenait en charge, le médecin prenait en charge la totalité d'un organisme, on soignait avec la parole autant quelquefois qu'avec des médicaments, etc. Bon, je ferme la parenthèse, mais vous voyez, cette espèce de cynisme se traduit déjà dans un vocabulaire qui passe de plus en plus, hein, et que l'on admet. Alors, dans ce manifeste qui ouvre le rapport NBIC, on ne parle pas encore d'immortalité, mais ça ne saurait tarder. Et depuis 2003 que ce rapport a été remis, on a fait beaucoup de pas du côté de l'immortalité. On sait dire aujourd'hui que le bonheur sera réservé à un être qui n'aura plus de maladie. Et il n'y aura plus de maladie, nous annonce-t-on, grâce à la nanomédecine, grâce à ces nanorobots que nous ingérerons dans nos anatomies et qui détecteront les maladies in nucleo, qui éradiqueront les tumeurs, qui répareront l'ADN. Bon, tout cela est annoncé comme tout à fait prévisible dans un laps de temps réduit. Donc, cet être ne sera plus malade, cet être ne souffrira plus. Hein. Grâce au progrès des neurosciences, on aura évidemment les moyens de lisser la vie psychique, hein, de permettre qu'il n'y ait plus des contrastes. Les contrastes, parce que ce dont nous souffrons en général, c'est des contrastes. Hein. Si on est dans une situation où on peut lisser la vie psychique, bah oui, on a cette espèce de bonheur un petit peu béat qu'on associe quelquefois à la méditation, des choses comme ça. Donc, suppression de la douleur, suppression du plaisir aussi, évidemment. Hein, on ne peut pas tout avoir. Hein. Bon, donc on ne souffrira plus. Cet être qui aura le bonheur ne vieillira plus non plus. Bon, ça, c'est presque sûr, hein, grâce à la nanomédecine aussi. Hein, on va sans doute faire de grands progrès, et grâce surtout à la maîtrise de la duplication de nos cellules. Vous savez, vous avez entendu parler de tous ces progrès qu'on a fait dans le domaine de ce qu'on appelle la télomérase, hein, la compréhension du mécanisme de reproduction de nos cellules, de duplication de nos cellules. Si nous maîtrisons ce dispositif-là, nous pouvons bloquer le phénomène du vieillissement. Parce que pour l'instant, nos cellules se dupliquent, mais elles se dupliquent de plus en plus difficilement, et puis elles commettent des bugs, hein, qui produisent des cancers ou des choses comme ça. Si ça, on le maîtrise, le vieillissement, c'est réalisé. Puis en même temps, vous savez qu'on aura bientôt les moyens de créer des organes artificiels, hein, grâce à la maîtrise de ce qu'on appelle les cellules totipotentes induites. Donc c'est la possibilité qu'on a de faire régresser des cellules somatiques, hein, au niveau germinal, hein, au moment où ces cellules se reproduisent sans aucune spécialisation. Hein, bon, c'est les cellules, jusqu'à présent c'était les cellules embryonnaires qui représentaient ces cellules totipotentes, mais aujourd'hui on a découvert le moyen de faire régresser des cellules somatiques à l'échelle totipotent, et donc créer des organes artificiels, ce sera très très facile. Vous aurez un poumon d'abîmé, on vous prélèvera une cellule somatique, on les mettra en culture, et on réalisera un organe qu'on pourra vous greffer, que vous ne rejetterez pas, puisque ce sera le vôtre. Donc tout ça est annoncé comme très plausible, hein, et vous avez souvent quelqu'un qui rappelle ça, qui s'appelle Laurent Alexandre. Je ne sais pas si vous lisez le Monde, hein, une fois par mois, il a une petite chronique où il fait l'état des lieux de tous les progrès de cet ordre. Je continue, et j'ai presque fini. L'évocation, hein, de tous ces ingrédients qui sont censés composer l'image du bonheur que nous attendons tous, paraît-il. La capacité à contrôler la génétique des humains, des animaux et des plantes agricoles bénéficiera grandement au bien-être humain. Un large consensus sur les questions éthiques, juridiques et morales sera obtenu. Donc là, vous voyez, on est également très clair. Hein. On s'accorde pour associer le bonheur à l'eugénisme. Un eugénisme, donc modification de l'espèce, hein, amélioration de l'espèce. Un eugénisme évidemment décomplexé, parce que jusqu'à présent, l'eugénisme, ça rappelait le nazisme, et on n'en voulait pas. Hein. Mais cet eugénisme, il est devenu, comme dit le philosophe Habermas, libéral. C'est un eugénisme de la consommation. Hein, si vous pouvez me faire un enfant aux yeux bleus, sans bec de lièvre, etc., c'est mieux que si on le laisse naître sans savoir exactement ce qu'il sera. Bon, c'est cette logique-là dans laquelle nous sommes tous installés, qu'on le veuille ou non. Hein, cet eugénisme décomplexé, il va connaître une accélération très prochaine grâce au décryptage du génome humain, puisque on a décrypté maintenant, il y a un certain temps, le génome humain, et un certain nombre d'entreprises, de sociétés vont nous proposer à bas prix le décryptage de notre génome. Hein. Pour l'instant, c'est à moins de 100 dollars. Hein. Bon, très très vite, donc les uns et les autres, nous pourrons faire décrypter notre génome, et si nous pouvons faire décrypter notre génome, on pourra aussi développer une thérapie génique qui permettra de réparer, de modifier notre génome, et par conséquent d'orienter notre évolution selon une voie qu'on aura décidée. Vous savez que les Chinois sont en train de décrypter le génome de tous les gens qui ont plus de 140 de QI. Hein? Donc, tous les gens qui ont plus de 140 de QI sont décryptés, hein, et les Chinois se mettent dans l'esprit de pouvoir réaliser une société d'Einstein dans un avenir prochain. Beaucoup de fantasmes là-dedans, hein? Beaucoup de moyens aussi financiers, hein? Et beaucoup d'illusions qui vont nous porter. Hein, les uns et les autres, enfin, en tout cas, qui vont impressionner plus d'un. Je termine cet état des lieux avec l'éducation, puisque dans toute renaissance, eh bien, on accorde une place importante à l'éducation, et vous savez que on affecte en tout cas de considérer que l'éducation est un enjeu considérable dans toutes les sociétés technologiques développées. Hein, bon, et ça me paraît plutôt sain. Là, ce qu'on nous dit, je cite, « L'éducation sera transformée en un programme unique, mais diversifié, basé sur un paradigme intellectuel hiérarchique complet pour comprendre l'architecture du monde physique à partir de l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle cosmique. » Donc, on en revient là. Hein, donc, on va développer à l'échelle de la planète une éducation selon un programme unique qui permettra de donner à tout un chacun la compréhension de ce qui se passe depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Donc le savoir encyclopédique va devenir capital. On est en liaison avec le siècle des Lumières, hein, qui envisageait la chose sous cet angle-là aussi. Et puis, bah, vous avez entendu parler des MOOC, hein, le développement des MOOC, donc de ces enseignements diffusés par Internet, hein, à l'ensemble de la planète. Bon, c'est ça qu'on est en train d'associer à cette idée d'un savoir universel. On est en train d'unifier les êtres humains par la compréhension du monde grâce aux mêmes instruments de savoir, hein, qui vont donc être diffusés à grande échelle. Donc le bonheur est dans la connaissance. Le bonheur est dans la connaissance, ici, dans la gnose, comme on pourrait dire. La gnose, c'est un terme savant pour dire la même chose. Et tous les transhumanistes se situent sur ce terrain-là. Hein, les transhumanistes se prêtent tous une inspiration tous, quand ils sont instruits. Ils ne sont pas toujours instruits, mais quand ils sont instruits, les transhumanistes se prêtent volontiers une ascendance du côté de la gnose médiévale. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait un courant spirituel qui avait une théorie intéressante. La théorie, c'était de dire, voilà, Dieu a commencé à créer le monde, et puis il n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'il a dû faire front à des forces du mal, et ces forces du mal l'ont empêché de terminer son boulot. Donc le monde est resté en suspens. C'est pour ça qu'il est imparfait, c'est pour ça que nous sommes imparfaits. Mais au Moyen-Âge, la gnose, c'était de dire le savoir et le savoir-faire vont peut-être nous permettre à nous, humains, de parachever le travail laissé en plan par Dieu. Et c'était la croyance qu'on développait là. Le savoir va peut-être nous permettre de battre les forces du mal, de supprimer le mal, et par conséquent de faire advenir le triomphe du bien. Ben, nos transhumanistes contemporains, ils disent ça. Ils disent aujourd'hui, les sciences et les techniques vont nous permettre de parachever la nature, et d'accomplir l'humain. D'accomplir l'humain, précisément, en lui supprimant tous ces éléments de handicap que sont la naissance, la souffrance, la maladie, le vieillissement et la mort. Quand on aura supprimé ces cinq choses-là, ça ira mieux. Bon, est-ce que ça sera encore de l'humain? Ça, je ne sais pas bien. Mais en tout cas, c'est ça, l'idée, le fantasme qui habite ces technoprophètes, qui poussent souvent le bouchon très très loin, mais pourquoi ne le feraient-ils pas, puisqu'ils sont suivis par des industriels, des économistes et des politiques. Alors j'arrête cette énumération des bienfaits attendus de la révolution technologique qui est en train de s'afficher autour de nous dans quantité de domaines. J'ai parlé du domaine de la santé connectée. Je n'ai pas parlé beaucoup des objets intelligents qui vont se multiplier dans notre environnement, mais c'est la même chose. Ces objets intelligents sont des objets connectés. Je n'ai pas parlé beaucoup de la robotique de service, mais dans mon dernier livre, L'homme simplifié, je consacre deux chapitres à parler de la robotique au service des personnes âgées dans les hôpitaux, la robotique dans les écoles maternelles en Corée du Sud, etc. Bon, c'est des choses dont il faut suivre l'évolution. Je n'ai pas parlé non plus, et je ne vais pas le faire, de toutes ces annonces hyperboliques. Alors on dit hype, H-Y-P-E, pour dire hyperbolique, toutes ces annonces hyperboliques qui drainent des financements publics considérables et qui font partie quand même de notre environnement quotidien. Prenez le programme de Lausanne qu'on appelle le Human Brain Project, qui est ce programme de réalisation d'un cerveau artificiel, vous en avez tous entendu parler. En tout cas, vous le payez, comme moi, puisque la communauté européenne a donné 1 milliard d'euros, pour ce projet de cerveau artificiel. Et on en attend beaucoup sur différents champs, et pas seulement sur le plan de la lutte contre l'Alzheimer ou Parkinson, mais bien d'autres choses. Donc je ne parle pas de tout cela, de même que faudrait évoquer tous les travaux qu'on fait dans ce qu'on appelle la robotique affective, vers l'informatique émotionnelle. Ce sont des champs qui se développent aujourd'hui et qui prennent pied dans la communauté scientifique et technique. Et tout cela est mis au service d'une vision de l'accomplissement de l'humain, du parachèvement de l'espèce humaine, qui est un peu étrangère au commun des mortels, mais qui fait l'objet de beaucoup de spéculations, y compris au niveau des méga-machines comme Google. Vous avez peut-être été étonné d'apprendre que Google s'était engagé dans les biotechnologies, parce que vous ne vous attendiez pas forcément à ça. Google, c'est c'est votre prestataire de service lorsque vous cherchez une information. Bah, Google a investi beaucoup dans une société qui s'appelle Calico. Hein, vous regarderez sur Google précisément ce que c'est Calico, hein, et vous découvrirez que c'est une entreprise qui vise à tuer la mort. Hein, tuer la mort. Hein, donc, réaliser l'immortalité. Hein, Calico, ça s'écrit C-A-L-I-C-O, hein, tout simplement. Hein, et regardez, vous serez édifié. Alors, ma question maintenant, c'est de savoir, est-ce que la vie sera plus belle en 2045 ? Pourquoi 2045 ? Parce que certains transhumanistes, parmi les plus prestigieux, nous annoncent que c'est en 2045 qu'on aura franchi le saut, le pas. En 2045, une intelligence non biologique sera... verra le jour et rendra notre intelligence biologique obsolète. C'est ce qu'annonce Ray Kurzweil, qui est le grand Manitou du transhumanisme aux États-Unis, qui est ingénieur en chef de Google, hein, qui est conseiller spécial d'Obama pour les questions de technologie et qui dirige un institut qui s'appelle l'Institut de la Singularité, qui réunit les élites mondiales qui réfléchissent précisément sur tous les scénarios technologiques en place. Ray Kurzweil, il a écrit plusieurs livres qui ont été traduits, dont un que je vous recommande, qui s'appelle « L'humanité 2.0 », et le sous-titre, c'est « La Bible du changement ». Et c'est tout un programme, mais un programme très très plausible, toujours étayé sur des données scientifiques et techniques vérifiables, hein, mais voilà. Il fait monter un petit peu la mayonnaise, hein, en annonçant précisément le changement, hein, le changement et le passage du biologique au non biologique. Hein, et le jour où une intelligence non biologique aura vu le jour, eh bien, notre intelligence ne vaudra plus grand chose. C'est ça que l'on dit. Si on fait passer le biologique à l'artificiel, vous voyez aussi que nos corps, notre viande, comme disent élégamment les transhumanistes, hein, pourra aussi être éliminée. Alors, la vie sera-t-elle vraiment plus belle en 2045 avec cela ? Le monde meilleur sera-t-il acquis à ce moment-là ? Alors j'ai parlé de la singularité, quantité d'autres transhumanistes parlent du successeur, du point oméga, enfin ils ont tous des lexiques pour dire toujours la même chose, à savoir l'apocalypse est pour demain. L'apocalypse c'est pas forcément catastrophique, l'apocalypse c'est bon, le surgissement de la lumière. Donc l'apocalypse elle est pour bientôt, elle est pour demain. Et il faut que nous prenions déjà l'habitude, les uns et les autres, de nous laisser déborder par nos réalisations techniques, artificielles, nous laisser déborder par les objets intelligents que nous produisons de plus en plus. Donc la meilleure manière d'accompagner ce mouvement-là, c'est de consentir à nous déprendre de l'initiative, de nous déprendre de l'initiative au profit de nos machines. Puisqu'on est en train de nous dire que tout se passera au mieux si nous cessons d'être aux commandes, nous, les humains. Hein. Si nous savons déléguer nos fonctions à des machines. Parce que tant que nous étions aux commandes, nous avons commis l'irréparable. Nous avons détruit la planète, nous avons créé des génocides, etc., etc. Donc, apprenons à nous déprendre de tout cela pour pouvoir permettre, finalement, que le monde évolue dans le sens qui nous est annoncé. Si j'insiste un petit peu là-dessus, c'est ce côté étrange. Vous avez peut-être entendu parler de cet appel qu'ont fait un certain nombre de grands scientifiques, technologues. Le premier, c'est Stephen Hawking, hein, l'astrophysicien bien connu, hein, à cause essentiellement de son handicap. Et puis Bill Gates. Ils ont signé un appel il n'y a pas longtemps qui énonce ceci, attention, l'intelligence artificielle risque de supprimer l'espèce humaine. C'est eux qui ont dit cela. Hein. Et ils ont été suivis par 5 000 signataires, hein, qui sont tous parmi les scientifiques les plus réputés. Alors vous voyez, quelqu'un comme Stephen Hawking, qui ne pourrait pas vivre sans intelligence artificielle, hein, il est traversé d'intelligence artificielle. Quelqu'un comme Bill Gates, qui n'aurait pas la fortune qu'il a s'il était étranger à l'intelligence artificielle. Mais ces gens-là sont en train de nous dire, on est en train de mettre en place toutes les conditions pour que l'espèce humaine disparaisse. Étrange, mais vraiment, soyez attentifs à cela, n'hésitez pas à regarder. Et plus moi je m'intéresse aux choses, à ces choses-là, plus je découvre d'ailleurs chez tous les gens qui ont fait notre culture technologique contemporaine, des alertes en disant « Attention, on croit bien qu'on a fait une bêtise et qu'on vous conduit dans le mur. Hein ». J'ai là, je prenais ça, oui, je crois que je l'avais là, oui, peut-être ici. Et voilà. Pourquoi Steve Jobs ne laissait pas ses enfants se servir d'iPad ni d'iPhone ? Vous avez vu ça ? Hein ? Voilà. Bon. Steve Jobs, donc, qui est mort il y a quelques années, donc c'est lui qui a créé Apple quand même, hein, eh bien, on découvre qu'il a toujours interdit à ses enfants de se servir d'ordinateur. Vous vous rendez compte ? Et puis on découvre que dans la Silicon Valley, tous les gens du niveau de Steve Jobs, eh bien, mettent leurs enfants, non pas au collège ou au lycée du coin, non pas devant des écrans pour recevoir des MOOC, mais dans des écoles privées où on apprend le latin, le grec et la littérature, et où il n'y a pas d'ordinateur. Vous vous rendez compte ? Ça devrait quand même nous inquiéter, hein, nous qui sommes euphoriques devant tous nos objets, tous nos machins, de découvrir que ces gens qui savent à peu près de quoi ils parlent, ils sont plus prudents. Hein, ils savent que si on veut faire des têtes bien faites, il faut peut-être les écarter des écrans. Qu'aurons-nous perdu dans ce monde meilleur, entre guillemets, qui sera dominé par des algorithmes, par les algorithmes que nous imposent nos machines ? Je répondrai brutalement, nous aurons perdu la conscience, la réflexion, le désir, les langues de culture. On aura sans doute gardé ce qu'on appelle les langues de service, hein, c'est les langues qui nous permettent d'obtenir les uns des autres des choses et d'obtenir des choses de nos machines, mais les langues de culture, on les aurait sans doute perdues. Nous aurons sans doute perdu tout ce qui nous fait fondamentalement humains. La vulnérabilité. Nous aurons perdu la vulnérabilité si nous sommes devenus tout puissants grâce à nos machines. Et si nous perdons la vulnérabilité, nous perdons la tentation de communiquer les uns avec les autres, parce que nous ne communiquons que parce que nous sommes vulnérables. Si nous devenons parfaits, nous n'aurons plus aucune raison de communiquer. Et ça, tous les romans de science-fiction mettent bien ça en scène, en montrant l'homme du futur est un homme qui vit dans un monde extrêmement hétéroclite, mais qui ne communique plus, hein, qui n'est plus dans une relation de désir avec l'autre. Nous aurons perdu l'incertitude qui nous conduit à chercher et à espérer. Nous aurons perdu l'équivocité, l'ambiguïté qui nous invite toujours à la conversation, qui nous invite toujours à la séduction. Nous aurons perdu l'incomplétude qui nous pousse à aimer l'autre que soi, précisément. Donc tous ces éléments-là sont des éléments dont on nous annonce la suppression et dont on nous dit que une fois qu'ils seront supprimés, eh bien, nous serons dans le bonheur. En fait, parce que les technologies privilégient les automatismes plutôt que la conscience, parce qu'elles privilégient la duplication plutôt que la reproduction hasardeuse, parce qu'elles privilégient la réactivité plutôt que la réflexion qui exige du temps, on doit se dire que les technologies visent à nous débarrasser de l'humain. De l'humain, c'est clair, c'est aussi clair que cela. Et quelquefois, j'ai eu des discussions avec certains transhumanistes américains, notamment un qui s'appelle James Hughes, qui m'avait sidéré. Hein, c'était au cours d'une réunion un petit peu comme la nôtre là, On avait tenu une table ronde où j'avais dialogué avec cet homme. Et puis cet homme, je voyais bien qu'il finissait par énerver une dame qui était dans les premiers rangs. Hein. Et puis la dame, à un moment donné, elle a explosé. Elle lui dit, écoutez, monsieur Hugh, vous êtes énervant parce que vous parlez des humains et comme si c'était des robots. Il n'y a pas de différence pour vous entre l'humain et le robot. Quand même, il y a une différence. Alors, le transhumaniste a dit, ah bon, il y a une différence? Et quelle différence? Alors, la dame, elle a dit, ben quand même, les humains, ils sont conscients, et pas les robots. Alors le transhumaniste américain, il a levé les bras au ciel et a dit, hélas, hélas. Et puis il lui a expliqué que, oui, il y avait sans doute une différence, mais il fallait qu'on supprime cette différence, parce que la conscience, elle est apparue dans l'évolution biologique de l'espèce à un moment donné, comme un avantage sélectif, c'est-à-dire un avantage qui a permis à l'espèce humaine de survivre dans la lutte pour l'existence. Mais ce qui est un avantage sélectif à un moment donné devient un handicap. Voilà ce qu'il a expliqué, ce monsieur. Et si la conscience nous a aidés à développer de l'histoire, de la culture, etc., et à survivre, hein, alors que les animaux n'en avaient pas besoin, eux, eh bien, aujourd'hui, nous a expliqué ce monsieur, la conscience, ça devient un handicap. Et il faut savoir que notre salut, il est dans les automatismes, dans la réactivité, dans le temps réel, c'est-à-dire dans la suppression du temps, dans l'écrasement du temps. Et tout ce qui est conscience, réflexion, intention, etc., qui freine les choses, c'est une catastrophe. Donc, le projet même de supprimer la conscience est un projet qui trouve une justification aux yeux de tous ces gens-là. Donc, voilà, se débarrasser de l'humain, ben oui, le projet, il est simple. Se débarrasser de l'humain, c'est d'abord se débarrasser de la naissance. Les biotechnologies visent à nous débarrasser de la naissance pour lui substituer la fabrication. Si un jour, nous pouvons plutôt cloner que de laisser se reproduire, c'est-à-dire s'hybrider des génomes, ça sera mieux. Les utérus artificiels, ça c'est pour bientôt, et ça sera déjà aussi une voie. Donc fabriquer l'humain et non plus le laisser naître. Développer des mécanismes plutôt que de l'esprit, ça, Jean-Pierre Changeux, lorsqu'il avait publié L'homme neuronal en 1986, il disait déjà ça. Il disait, on peut se débarrasser de l'esprit et remplacer l'esprit par les neurones. L'homme est d'abord et avant tout un animal neuronal. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc toutes les sciences cognitives aujourd'hui essayent de comprendre ça. La dématérialisation est un projet aussi. Hein, plutôt que le corps, il vaudrait mieux viser la dématérialisation. Et les sciences de l'information sont là pour nous le proposer. La science-fiction le raconte déjà. Hein, si vous avez vu Matrix, hein, c'est ça. C'est au fond, on ne vit plus que dans le cyberespace, donc de manière virtuelle. On résout beaucoup de problèmes avec ça. Donc, vous voyez, tout cela est quand même... Il faut peut-être que je me dépêche parce que oui, bon. Voilà, dans mon livre « L'homme simplifié », c'est ça que j'essaie de mettre en évidence, cette idée que l'obsolescence programmée de l'humain consiste d'abord dans la simplification que nous sommes contraints d'adopter dans nos relations avec les machines. Mon thème général, c'est de dire que plus nous interagissons avec des machines, plus nous sommes obligés de simplifier nos comportements, et plus nous finissons par nous percevoir nous-mêmes comme des êtres simplifiés, c'est-à-dire élémentarisés. Et ça, c'est catastrophique, parce que c'est cette idée de l'humanité que nous perdons progressivement sur cette voie-là. Ce que j'ai nommé le syndrome de la touche étoile, donc c'est cette contrainte qui nous est faite de plus en plus de satisfaire aux exigences d'automates. Si je veux qu'une machine me rende un service, je dois en passer par le diktat, les exigences hein, d'automates, hein, qui m'imposent des gestes, qui m'imposent des mots. Hein, quand vous téléphonez maintenant pour être dépanné, on vous dit « oui, dites en un mot la nature de votre panne ». Et puis presque à chaque fois, vous voyez bien que le mot « clé », vous ne l'avez jamais, hein, parce que c'est toujours spécifique. Enfin bref, on est tous les uns et les autres hein, contraints à nous soumettre à des exigences qui sont celles des machines et des exigences qui nous imposent ben, de ne pas nous comporter comme des humains. Hein. Quand vous avez un serveur vocal, c'est pas la peine de faire de l'humour avec lui, c'est pas la peine d'essayer de séduire la jolie voix que vous entendez. Ça, pardon ?
Ce n'est pas le simplifier, là, ce que vous dites. C'est même complètement complexifié. Je veux dire, ce n'est pas possible, comme on parle de la dame du fait qu'il a failli exploser enfin, depuis le moment, qu'on puisse comparer la technologie à la vie.
Ouais,
au bonheur. Ouais, ouais. Je veux dire, c'est absolument, ça n'a rien à voir avec le. L'homme, il est complètement mis hors de sa nature par rapport à la.
Bon, et s'il veut rester en contact avec ses machines, il est obligé de se comporter lui-même comme un automate. Hein, vous répondez. Oui, tout à l'heure. On en parlera parce que c'est intéressant votre réaction. Voilà. En tout cas, bon, ce que je prétends pour ma part, c'est que nous sommes de plus en plus nous-mêmes des objets intelligents, des codes-barres ambulants. Hein, nous sommes des codes-barres ambulants, toujours reconnus, scannés. Hein, et nous sommes finalement dans l'illusion hein, que nous vivrions mieux hein, si nous étions intégralement machinisés. Alors bon, quand je dis ça à Michel Serre, il me dit « Mais non, tu te gourres, t'es complètement à côté de la plaque, regarde cette merveilleuse révolution que nous sommes en train de connaître, qui équivaut à la révolution qu'a représenté l'écriture, puis l'imprimerie, qui a ouvert des continents, etc. etc. » Oui, l'écriture, effectivement, a ouvert un monde, hein, le monde des écrits. Hein, et ce monde des écrits qui a donné d'ailleurs naissance à l'humanisme, hein, ce qu'on appelait l'humanisme, au sens fort du terme. Mais je pense que la numérisation n'est pas tout à fait l'équivalent de l'écriture. D'abord, la numérisation, c'est une simplification, puisqu'on transforme l'écriture en une suite de 0 et de 1. Hein. Et cette numérisation, dont on nous dit qu'elle nous ouvre à un monde, ça nous ouvre un monde où le symbolique est réduit à l'algorithmique. Hein. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que cette numérisation, elle ouvre non pas à l'humanisme, mais au post-humanisme. Hein. Et l'humain, je pense, là, il est sur la touche. Hein. Donc cet homme supposé augmenté que nous produit aujourd'hui est en fait un homme simplifié, réduit au fonctionnement de ses pulsions élémentaires, réduit au fonctionnement des automatismes comportementaux que le monde des machines lui impose. Et c'est la réalité que nous laissons s'installer. Je vous recommande juste la lecture du livre de Nicolas Carr qui s'appelle « Internet nous rend-il idiots ». Vous avez peut-être lu hein, ce livre, bon, qui est très intéressant. Parce que là aussi, Nicolas Carr, c'est un internaute de la première heure, quelqu'un qui a beaucoup contribué à la culture du numérique et qui confesse aujourd'hui une infirmité au sens fort du terme. Il dit, voilà, je sais qu'il y a des choses que je savais faire, que je ne peux plus faire. Hein, je savais lire Tolstoï, je savais lire les grands, et je ne peux plus lire, ça n'est plus possible. Je ne sais plus que écrémer des écrans. Hein, mes neurones, vraisemblablement, ont réalisé des circuits qui correspondent à cette activité d'écrémage sur des écrans, et j'ai perdu la disposition hein, de circuits synaptiques qui pouvaient correspondre à la lecture profonde, à la lecture méditative, à la lecture, etc. Donc, ce qui m'a fait grandir hein, dans un contexte, je parle toujours comme Nicolas Carr, ce qui m'a fait grandir dans le contexte des humanités, au contact des grandes œuvres, ne m'est plus accessible désormais. Hein, donc, alors, on pourra me dire, c'est peut-être mieux. Hein, pourquoi pas, après tout ce qui existe mérite de périr, et les grandes œuvres peuvent périr elles aussi. Mais en tout cas, ça mérite qu'on y regarde d'un peu près, et c'est ce que fait Nicolas Carr, justement, dans son livre « Internet nous rend-il idiots ». Donc je crains que l'enthousiasme de certains pour les promesses technologiques ne soit que le revers d'une espèce de désaffection de l'humain pour lui-même. C'est un thème que j'avais développé dans un livre précédemment qui s'appelait « Demain, les post-humains », hein, où j'essayais de suggérer que nous sommes peut-être dans des sociétés qui sont en mésestime par rapport à l'humain. Nous sommes peut-être déprimés, fondamentalement déprimés, c'est-à-dire nous connaissons un déficit en vitalité, et cette dépression, eh bien, elle pourrait se traduire par cette espèce d'engouement vers les machines, avec cette logique consistant à dire que plus on connaît les hommes, plus on aime les machines, hein, comme autrefois on disait, plus on connaît les hommes, plus on aimait son chien. Ben là, c'est les machines. Hein, cette espèce d'implication quasiment addictive aux machines serait le revers de cette espèce de mésestime dans lequel on tient l'humain en général. Alors si on devait aller jusqu'au bout, il faudrait même dire que les technologies visent peut-être à nous débarrasser même de l'obsession du progrès et de l'espoir. Parce que attendre que les machines nous débarrassent de nous-mêmes, c'est une manière aussi de dire qu'on ne croit plus non plus dans le progrès. Hein. On n'espère plus rien, finalement, de l'avenir. La seule chose qu'on espère, les transhumanistes le disent clairement, c'est la rupture. Hein. C'est la rupture qui nous ferait basculer dans autre chose. Cette autre chose... Pour moi, il y a un écrivain qui le décrit très très bien, c'est Welbeck, hein, depuis le début. Hein, quand il décrit l'ennui, hein, regardez dans la possibilité du Nil, hein, qui décrit cette espèce de succession de clones, hein, c'est l'ennui qui domine. L'ennui et l'absence du désir. Puisqu'on ne se reproduit plus sexuellement, hein, on a perdu jusqu'au désir de l'autre, hein, on n'est plus que... Des spécimens qui s'engendrent les uns les autres. Et cette espèce de soif d'immortalité dont on nous parle tellement aujourd'hui, elle est mortifère, enfin, comme je le dis parfois. Donc il y a quelque chose de mortifère à vouloir l'immortalité. On découvre, chez Welbeck et chez d'autres, que cette espèce de quête de l'immortalité, eh bien, elle rend vraiment... saisissante la solidarité qu'il y a entre la vie et la mort. Aimer la vie, c'est aimer la mort. Hein. Ne plus aimer la vie, c'est effectivement vouloir cette immortalité. Et je pense que les transhumanistes sont très profondément en fâcherie avec la vie. Alors, question, et je termine par là. Est-ce qu'on peut désirer ces utopies ? Est-ce qu'on peut désirer ces utopies post-humaines ? Est-ce qu'on peut y projeter l'image d'une vie épanouie ? Comment éviter de se laisser imposer les technologies qui sont la transposition imaginaire d'une évolution qui est vécue comme un destin auquel on ne peut pas échapper ? Ben, je crois que c'est la question la plus difficile qui soit aujourd'hui. Parce que cette question, elle nous concerne les uns et les autres, hein, très, très concrètement. Elle revient à se dire ceci, peut-on ne pas vouloir ce que l'on peut réaliser ? Peut-on ne pas vouloir ce qu'on peut réaliser. Comment résister aux techniques dont on sait très bien qu'elles sont très ambivalentes, toutes les techniques. Bernard Stiegler dit souvent que ce sont des pharmacones, des pharmacas. Donc ce sont des poisons et des remèdes, les techniques. Dans toute technique, il y a la possibilité de sauver quelque chose et puis de ruiner quelque chose. Je pourrais énumérer... certaines technologies qui sont les technologies de notre vie quotidienne et qui sont bien cette ambivalence-là. Il y en a une technologie que j'aime bien citer parce qu'on y est très attaché, c'est le diagnostic prénatal. Diagnostic prénatal, donc IRM, échographie, etc. Bon, qui pourrait dire que c'est pas bon, hein ? Bon. Ben, ce diagnostic prénatal, c'est quand même aussi la porte ouverte au tri embryonnaire, donc à l'eugénisme, etc. Donc, d'un côté, remède, et d'un autre côté, poison. Poison, réellement. Je prends un autre exemple, les techniques de maîtrise des ondes électromagnétiques qui permettent à des tétraplégiques de contrôler leur environnement rien que par la pensée. Formidable. Hein. Un tétraplégique, il ne peut plus bouger, il peut déplacer une souris sur un écran d'ordinateur, ouvrir des portes de placard, changer une chaîne de télévision, rien qu'en y pensant. Enfin, de plus en plus, à Grenoble, le Clean Attack travaille beaucoup là-dessus. Formidable, c'est un remède, ça. Bon, la même technologie confiée à des militaires pour s'emparer de l'esprit de l'ennemi. Une catastrophe, ou en tout cas quelque chose qui peut être éthiquement plus discutable. Donc on a à chaque fois affaire à cette ambivalence. Alors nous les uns et les autres, comment on fait pour freiner l'euphorie techniciste et soumettre à question les réalisations qu'on nous propose? Alors le bonheur, le bonheur. On a envie de se dire que on a des éléments qui nous permettent de vivre mieux, du point de vue de la santé, du point de vue du confort matériel. Mais il faudrait ajouter, à condition que les outils que nous multiplions pour nous simplifier la vie ne fassent pas écran à ce que nous sommes. Parce que qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des êtres compliqués. Nous sommes des êtres compliqués, je ne dis pas complexes, parce que la complexité, ce n'est pas le contraire de la simplicité. La complexité, c'est la multiplication de chaînes causales qui sont chacune simples. Bon, je pourrais revenir là-dessus. Tous les scientifiques, les mathématiciens savent très bien que la complexité, ça n'est pas la complication. La complication, c'est autre chose. Et nous sommes des êtres compliqués, nous ne sommes pas des zombies. Nous sommes des êtres de langage, de culture, et non pas des boîtes noires qui recevons des inputs et qui émettons des outputs. Ce que les technologies voudraient que nous soyons, des boîtes noires. Nous sommes des êtres capables de résilience parce que nous avons en nous des ressources pour grandir, pour nous améliorer. Nous sommes des êtres de désir parce que nous avons le sens du dépassement de nous-mêmes. Le désir, c'est ce que Platon appelait la nature érotique de l'homme. Nous sommes des êtres érotiques au sens où nous aspirons à l'absolu et nous mettons en œuvre des éléments toujours transitoires, toujours éphémères pour réaliser cet absolu. Mais c'est cela que nous sommes. Et nous sommes des êtres qui avons le goût de l'aventure. Bon, donc tous ces éléments-là qui font ce que j'appellerais la nature humaine, faute de mieux, il faut être attentif à ne pas s'en laisser déposséder par l'environnement de machines que nous mettons en place. Si les techniques cessaient de nous fasciner et si elles cessaient de nous éloigner de nous-mêmes, pour servir, si nous arrivions à distancier ces techniques pour peut-être redécouvrir des idéaux de convivialité, des idéaux de proximité, tels que justement la culture du numérique l'a voulu au départ, peut-être qu'on en parlera, tout ça serait bel et bon. Mais vous voyez bien, ça sera mon dernier mot, il y a du boulot. Voilà, merci.
Merci.
Alors, des réactions, des questions. On a 10 bonnes minutes, quart d'heure, parce que M. Beignet est pris par le temps.
J'ai été encore bavard.
Non, ça fait rien, bavard, ça fait rien.
Ça. Bonjour, moi j'aurais bien aimé que vous reveniez sur la différence de langage entre enhancement, enfin le terme anglais, oui. Et puis la traduction qu'on a fait en France. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que... Enfin, parce que c'est un choix dans une traduction qu'on fait toujours.
Ben oui.
Donc
enhancement, on pouvait le traduire par l'amélioration, parce que le terme américain peut admettre cette nuance, amélioration, aller vers le meilleur. Et on a choisi augmentation, aller vers le plus.
Donc c'est déjà qu'en France, on est plus mesuré face à cet essor.
On est plus convaincu que l'amélioration, la trajectoire vers le meilleur consiste vers l'accroissement, c'est-à-dire le plus. Je vais prendre un exemple simple. Qu'est-ce que c'est que l'homme augmenté tel qu'on le conçoit aujourd'hui ? L'homme augmenté, c'est celui qui est capable de servir d'exosquelette pour pouvoir courir plus vite, gravir des montagnes, etc. C'est celui qui mémorise plus vite des listes de nombres grâce à des molécules style modafinil. C'est celui qui, qui dort moins. C'est celui qui voit plus loin. On est toujours dans le plus. Hein. L'homme augmenté, ce n'est pas celui qui réfléchit mieux, ce n'est pas celui qui a un sens esthétique plus évolué, ce n'est pas celui qui est capable de faire des évaluations morales plus efficaces, etc. Donc il y a clairement une décision qui a été prise de décliner l'enhancement en termes de quantité et non pas en termes d'amélioration, tout simplement. Hein, donc je crois qu'il y a un choix idéologique là qui est quand même bien clair.
Merci pour ce débat. Je trouve que c'est important d'en parler parce qu'on ne mesure pas ce qui est en train d'arriver. Je pense qu'effectivement, bien appuyé sur le fait que Raymond Kurzweil a une influence extrêmement importante au plus haut, niveau des décisions qui sont prises aux États-Unis, et en particulier ce qui se passe sur la Silicon Valley, ses lieux et certaines universités. Par contre, ce que je pense qui est important, c'est de dire qu'il y a on fait souvent des projections, c'est de dire qu'il y a déjà des phénomènes intéressants de donneurs d'alerte, de gens qui, comme Wikileaks, donnent les informations aux populations, et que face à ce danger, hein, effectivement, vous citez 2045, hein, c'est les prévisions de la singularité de Kurzweil, face à ça, il y a peut-être aussi des phénomènes intéressants, à la fois de donnés par des lanceurs d'alerte, mais également peut-être de désaffection aussi face à ces technologies. Je pense que, par exemple, sur Internet, on a des nouveaux indicateurs qui arrivent, de gens qui décrochent d'Internet, les fameux décrocheurs des technologies, et que, globalement, on est aussi sur un mouvement mondial où on voit bien qu'il y a des changements, des réappropriations par les populations. On parle de biohacker lab, par exemple, avec des gens qui essayent de définir l'appropriation par les populations, dans l'idée de ne pas être oppressé par ces minorités qui ont déjà, de toute façon, fait le hold-up au niveau de l'économie. N'oublions pas, l'économie est pilotée par ces fameux algorithmes, la finance en tout cas,
la bourse,
et que derrière, il est donc important peut-être de voir l'approche de socialisation par des groupes de population qui... Alors moi, ce que je veux dire, là où j'en veux un petit peu, c'est sur les décideurs, sur les politiques qui auraient dû depuis longtemps... s'interroger, alors ça a déjà été fait, hein, les problématiques d'éthique en biomédecine et en biotechnologie, mais on n'a pas été assez loin dans les nouvelles technologies. Je pense que, par exemple, en France, on est sur une approche, j'ai pas d'autre mot, mais crasse, en termes de vision technologique et d'évolution, autant au niveau national que je ne parle même pas au niveau régional. Hein, on est bien placé pour savoir. Je ne sais pas votre avis par rapport à ça, sur ces donneurs d'alerte et à la fois sur l'incurie des décideurs par rapport à tout ça.
Ah bah écoutez, moi je partage votre optimisme, c'est peut-être un peu trop, hein, mais en tout cas, l'attention qu'il faut porter aux Fab Labs, aux cantines, à tous ces îlots dans lesquels on voit souvent des jeunes essayer de mobiliser les technologies, non pas à des fins de rentabilité, etc., mais à des fins de convivialité, d'organisation de la proximité, etc. Donc vous avez cité Wikileaks, bon, qui est là un lanceur d'alerte, mais vous auriez pu aussi citer les mouvements en faveur de la simplicité volontaire. Qu'au Canada, on voit se développer de plus en plus. Ce n'est pas des Amish, hein, ce n'est pas des gens qui refusent la technologie, mais c'est des gens qui en appellent à la sobriété technologique, hein, et qui veulent précisément maîtriser ces machines et ces outils selon des finalités et des objectifs, hein, que l'on discute ensemble. Hein.
C'est un mouvement extrêmement important, c'est la question de l'open source,
oui, par exemple.
Qu'on peut imaginer aussi, pourquoi bien pas, sûr, au niveau biotechnologie, mais un accès, ou alors la lutte contre les brevets, ce qui s'est passé dans certains, oui, pays, par exemple sur le VIH, où voilà, bon, ça pose la problématique des brevets, qui est un vrai problème dans ce développement, mais aussi l'accès aux populations, au 99%.
Je pense qu'il y a beaucoup espéré de toutes ces initiatives ponctuelles, locales. Il y a quelquefois des batailles qui sont gagnées. Vendredi dernier, on a gagné une grande bataille en Europe. On a réussi à tordre le bras à Google, et à lui imposer l'obligation de déréférencer des gens qui réclament le droit à l'oubli. Hein, bon, ça, c'est très important. Donc, on a réussi à obtenir que Google Europe le fasse. Mais le site qu'on déréférencera sera quand même en ligne, restera en ligne aux États-Unis, parce que les Américains, eux, pensent que le droit à l'information prime sur le droit à la vie privée. Hein, bon. Mais enfin, il y a des... Bon, je ne suis pas... Je vous laisse parler.
Non, moi, dans l'affaire, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est que si c'est augmenté, si c'est pour être plus productif, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Et que plus productif économiquement, je ne trouve pas que c'est intéressant pour le patron, mais pour nous, je veux dire, c'est pas le bonheur, c'est pas un grand bonheur. C'est un bonheur pour le... Non, je veux dire, c'est pas...
Bien sûr, vous avez raison.
Qu'on ressemble à des machines, c'est pas ça qui me gêne le plus, qu'on ressemble à des machines, qu'on devient fat. Enfin, j'ai pas. Mais ce qui me demande, c'est que c'est tout relié à l'économie, quoi. Qu'on soit en bonne santé, bon, bah, c'est peut-être un bonheur. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que voilà, on est simplement des. Je sais pas, des. Ça me dérange.
Ben, vous avez raison, mais malheureusement, l'économie, ben, voilà, elle nous en sert. Et aujourd'hui. Les uns et les autres, nous n'avons de richesse que parce que nous sommes des supports d'information. C'est la seule chose qui intéresse l'économie, c'est que nous soyons des supports d'information, et ces informations, elles vont être traitées à haut niveau, et nous sommes là des pions, et purement des pions. C'est vrai.
Question du monsieur Bavard.
Pas bavard.
J'ai simplement une impression à donner, tout simplement.
Oui, oui, bien sûr.
Non, c'est simplement au niveau du...
C'est important de l'engagement médical.
Oui, mais moi, je voudrais ramener tout simplement, disons, le débat sur un... Ce qui n'est pas du tout le sujet du thème, mais un débat philosophique et autre chose, parce que j'entends parler de mots très compliqués, algorithmes, cyber, autre chose, et on a l'impression de détenir le Graal, le quoi que ce soit. C'est-à-dire que cette idée-là, en fait, ça s'appelle le scientisme, tout simplement. Vous voulez dire qu'elle est complètement dépassée depuis un moment. On a l'impression de parler d'une religion. Je veux dire, là, depuis que je suis là, c'est une religion. Et en fait, on se demande si cette religion-là, parce que c'en est une, le scientisme, va améliorer la vie et le bonheur des gens. Mais c'est complètement... Mais quand on se parle, quand on met en parallèle la technologie avec la vie, c'est-à-dire que l'être humain... serait meilleur s'il n'était plus un être humain, mais c'est complètement... Non, mais attendez, je veux dire que c'est un débat philosophique, vous voulez dire, parce que c'est tout ça, toute cette idée qui fait que, parce que c'est moderne, ce serait bon. La technologie, ça va... Des grands penseurs du XXe siècle ont bien vu que la science apportait plus de questions que de réponses, et de plus en plus, quoi. On a bien vu que tout ça, on était dépassé, et que l'être humain n'était pas du tout une machine. Et puis, de toute façon, s'il ne devient plus un être humain, de toute façon, c'est l'être humain. Et, je veux dire, par exemple, le fait de devenir, s'il était éternel, ce serait impossible à vivre, quoi. Donc, je veux dire, bon, vous n'êtes pas dupe. Vous avez bien dit tous les dangers de cette... En fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est complètement ringard, quoi. Je m'excuse, hein. Vous avez fait un travail énorme. C'est très intéressant. Je suis admiratif de votre travail, mais c'est complètement dépassé depuis un moment. C'est complètement dépassé ce débat-là. Maintenant, je parle d'un exemple. Par exemple, pour l'agriculture, tout simplement, après je finirai là, que l'agriculture industrielle qui prônait tout ça, que maintenant l'agrobiologie est le moderne et que l'agriculture industrielle va être le dépassé. Dans tous les domaines, on a avancé. Je veux dire que c'est ce débat qui voudrait dire que, voilà, que ce serait, voilà, que ce serait, qu'on pourrait améliorer l'être humain s'il n'était plus un être humain, ou que la vie serait meilleure ou plus belle. Mais la vie, elle ne serait plus la vie. Moi, je me base sur... Excusez-moi, je vais finir ça. On n'a rien inventé. L'homme, l'être humain, il est le même. Il y a 2000 ans, comme Pascal et Platon et Kant, il y a enfin un moment qu'ils ont pensé que la raison ne résolvait pas tout. Et puis que, bon, on est autre chose que... Voilà, donc je veux dire que c'est l'être humain, il est toujours le même. C'est même si on se gargarise de mots. Bon.
Là, je ne serais évidemment pas d'accord avec vous, parce que, bon, d'abord, je suis tout à fait d'accord, c'est du scientisme, ça, mais le scientisme, il prend une tournure qui est quand même préoccupante dans des sociétés technologisées, parce que ça conditionne notre vie quotidienne, c'est tout. On est dans un quotidien qui en passe précisément par des préoccupations qui sont d'ordre religieux et scientiste. Imaginez que nos sociétés puissent avoir un sens critique qui mette tout ça à distance, je veux bien, moi je suis parfaitement d'accord, et puis je sais aussi mettre en perspective toutes ces choses-là à partir de préoccupations qui sont très très scientifiques et fondamentalement scientifiques. Cela étant, il y a là une quotidienneté, un vivre concret qui, ringard ou pas, est de toute façon compromettant pour les uns et pour les autres. Donc, ce que vous dites de l'agriculture, il y a belle lurette aussi que l'agriculture industrielle est remplacée par ce qu'on appelle la moléculture, donc travail au niveau des molécules, bien entendu. Bon, mais il n'empêche que nous avons encore un rapport à la nature qui passe par des préoccupations qui peuvent être aussi religieuses et autres. Ben voilà, par exemple. Donc, je comprends bien votre réaction, mais je ne partage pas, parce que vous risqueriez, vous, par anti-scientisme, d'opposer au scientisme un autre scientisme.
Donc, un petit mot.
Ça dites, dites.
L'être humain, c'est d'abord une façon de penser, c'est une façon de se considérer. Et ce que je veux dire, je veux juste vous donner un petit coup de fait historique, c'est que la science, au départ, c'est d'abord une croyance. C'est-à-dire qu'on a désacralisé la nature, ce qui fait qu'au lieu de croire en la magie, que l'orage et puis la nature, la science vient du fait qu'on a, désacralisé la matière et on a cru. Et la science a besoin d'autre chose qui est totalement humain, c'est-à-dire une façon de se voir soi-même, de se vivre, et une vérité qui peut être vraie en théorie et fausse en pratique, et une vérité qui est fausse en pratique peut être vraie en théorie. Tout ça, c'est la vie, c'est autre chose que la... Et la science, c'est d'abord... C'est aussi une croyance, je veux dire que c'est un passage. Oui.
D'accord, merci.
Merci, monsieur Benoît.
Merci à vous. Merci.